C'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel+. Aujourd'hui au sommaire, retour sur le procès du djihadiste malien Al-Mahdi Al-Faqi devant la CPI. Arrestation de membres des groupes d'autodéfense au Cameroun. Suite de notre série sur les membres des familles présidentielles en Afrique. Aujourd'hui, le Bénin. Retour sur la 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Enfin, gros plan sur une initiative burkinabé pour aider des jeunes vulnérables et déscolarisés. Voici tous les sujets que nous allons traiter dans Sahel+. Restez avec nous. Au Mali, la population a suivi de près le procès d'Al-Mahdi Al-Faqi à la CPI. Ce dernier étant le premier Malien à comparaître devant cette juridiction internationale pour atteinte au patrimoine culturel du Mali. Un procès historique pour les habitants de Tombouctou qui n'ont pas caché leur joie, mais ils veulent aussi que d'autres criminels de la crise de 2012 passent devant la Cour pénale internationale. Reportage de Kassim Traoré.
C'est au Niger qu'Al-Mahdi Al-Faqi a été arrêté avant son extradition vers la Cour pénale internationale pour destruction de mausolée à Tombouctou. À l'époque, la ville était sous contrôle djihadiste avec comme chef Abou Zeid Lassana Cissé, directeur national du patrimoine culturel.
Les autorités maliennes ont été bel et bien saisies. Ils ont donné leur aval pour son transfert à la Cour pénale internationale. Donc c'est avec l'accord du Mali, ça c'est sûr. L'importance d'abord c'est que c'est un procès inédit. Pour la première fois dans l'histoire, un décideur, un pilleur du patrimoine est mis devant le fait accompli, c'est-à-dire répondre de ses actes devant un tribunal juridique et judiciaire. Pour nous, c'est l'acte le plus important.
Pour bon nombre d'habitants de Tombouctou, ce procès montre combien le patrimoine culturel est important.
Il a été le cerveau de la destruction des mausolées de Tombouctou. Il court maintenant actuellement 9 à 11 ans de prison. Bon, moi, je pense que ça, c'est une peine qui est trop courte pour un terroriste qui a fait d'énormes dégâts en détruisant des mausolées, des lieux de culture. Ça, c'est impardonnable. Il doit avoir une peine de mort.
Au moment où la CPI a jugé Al-Faqi, certains de ses patrons se pavanent entre les hôtels de Bamako au nom de la paix et de la réconciliation.
Au lieu de s'attaquer aux vrais responsables, ceux qui sont à l'origine de tout ça, les responsables derrière qui il y avait le mandat d'arrêt international, c'est levé aujourd'hui. Mais la communauté internationale ne peut pas fermer les yeux sur ça et courir derrière des gens qui ont détruit des choses. On peut réparer alors que des gens ont enlevé des vies. Mais on ne parle pas de... C'est pas juste. Il faut que ces responsables-là soient poursuivis, arrêtés et puis ils sont connus de tous. Et si la communauté internationale ne peut pas les pointer du doigt et les arrêter, nous, on peut le faire. Qu'ils nous demandent.
D'autres Tombouctiens se réjouissent de l'organisation de ces procès, même s'il a un goût d'inachevé à leurs yeux.
À l'instant, ce qu'on a appris à travers les sources d'information, ils disent qu'ils courent entre 9 ans et 11 ans de prison ferme avec sursis. Pour moi, je ne suis pas du tout satisfait de cette peine. Je veux que ça soit une peine exemplaire pour que les suivants qui veulent tenter l'aventure après, que ceci-là sache que vraiment, il y a une justice internationale qui est là, qui veut juger des gens contre ce genre de crimes.
Lassana Cissé, directeur national du patrimoine culturel du Mali.
Il a dit des choses, moi, qui m'ont fait sourire. Il dit, bon, lui, il a été instrumentalisé. Par qui hein? Il dit, il a été instrumentalisé par Acme et par Ansar. Mais soyons sérieux, s'il n'épousait pas l'idéologie, il n'a pas fait que détruire. Il a coupé des mains et des pieds. Donc ça, c'est tout à fait ridicule. Maintenant, si on doit le libérer ou, je sais pas, le pardonner, bon, le pardon, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être sanctionné, parce que nul n'est censé ignorer la loi, il doit être sanctionné. Le pardon ne suffit pas.
À Tombouctou, les populations sont très contentes de la tenue de ce procès, mais elles ne souhaitent pas qu'elle se limite à Al-Faqi seulement. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Il y a 2 semaines, le Cameroun a arrêté plusieurs membres des groupes d'autodéfense dans l'extrême nord du pays. Les autorités craignent que Boko Haram cherche à les retourner contre leur propre communauté. Reportage de Moki Edwin Kinzeka, relaté par Michel Joseph.
Midji Yawa Bakari, gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, ne cache pas ses craintes.
Les dispositions ont été prises pour que les mauvais grains ne s'infiltrent pas, pour gâter le bon travail qui a été fait, pour que les membres du comité de vigilance soient de bonne moralité. Il faut toujours qu'il y ait un cadre de réflexion pour amener les uns et les autres à travailler en synergie pour savoir dans quelle direction avancer. Ce que nous attendons d'eux, c'est la dénonciation, l'information pour permettre une intervention en temps réel.
Le gouverneur Bakari ne précise pas combien de suspects ont été arrêtés et ne donne pas non plus d'exemple de leur coopération présumée avec Boko Haram. Cependant, la presse locale rapporte qu'au moins 70 personnes ont été arrêtées par la police dans une douzaine de villages le long de la frontière et la répression continue. Le mois dernier, Amnesty International a accusé le Cameroun de procéder à des arrestations arbitraires et de se livrer aux abus des droits de l'homme sur des partisans supposés de Boko Haram. Pour Amnesty, plus de 100 personnes ont été condamnées à mort depuis 2015 dans des procès que l'association qualifie d'injustes. Le gouvernement a rejeté ce rapport, le qualifiant de tendancieux. Abdoul Garba, leader d'un groupe d'autodéfense à Kolofata, à la frontière avec le Nigeria, affirme que les insurgés promettent de meilleures paix aux jeunes et essaient d'utiliser certains d'entre eux comme espions.
Vous pouvez vraiment nous envoyer les denrées alimentaires et les matériels pour le travail. Nous allons redoubler l'effort pour travailler. Nous allons nous mobiliser, nous allons parler à tout le monde pour que tout le monde s'implique dans le travail comme il faut.
Ces groupes d'autodéfense ont aidé les militaires par des patrouilles dans les villages et coins les plus reculés. C'est un travail difficile et dangereux pour lequel il faudrait plus de formation, comme en témoigne Inoussa Ama, membre d'un groupe d'autodéfense à Kolofata.
Vers 21h qu'on commence le travail, jusqu'à 4h. Parmi nous, il faut les gens qui nous donnent aussi la formation. On travaille nuit et jour.
Yaoundé estime que la capacité des terroristes à mener des attaques à grande échelle a été fortement réduite, si bien qu'ils essaient maintenant de refournir leur rang en recrutant parmi les jeunes vulnérables au Cameroun.
De notre série sur les familles présidentielles africaines. Aujourd'hui, le Bénin. 4 mois après son élection à la tête du pays, l'homme d'affaires Patrice Talon fait face déjà à des mécontents, tant au sein des populations que au sein de la classe politique. Certains acteurs politiques reprochent au président béninois une, je les cite, une gestion cavalière, sans boussole et axée sur la recherche de ses intérêts personnels et de ceux de ses proches. Pour eux, il n'y aura pas de réelle rupture, seulement une autre équipe pour continuer la gestion du Bénin par un petit groupe qui s'enrichit au détriment du peuple. Et ce, après seulement un peu plus de 100 jours au pouvoir. De Cotonou, la correspondance de Ginette Fleur à Dandé.
Il aura fallu qu'un seul conseil des ministres pour que la vague des mécontentements se lève, prête à emporter dans ses flots le chef de l'État nouvellement élu et qui le 6 avril dernier a prêté serment sous les vivats et les acclamations du peuple désespéré mais confiant en l'avenir. Mais au premier conseil des ministres, les décisions tombaient et faisaient tant d'heureux que de malheureux. La suspension des concours frauduleux, les nominations de certains artisans, de la victoire du chef de l'État, la résurrection de certaines sociétés de gestion du coton appartenant jusqu'à un passé récent au président de la République et dans lesquels plusieurs milliards ont été investis suite à une décision prise en Conseil des ministres ont suffi pour faire déchanter certains. C'est le cas d'un certain Lord Rouenou qui s'est déclaré opposant et qui, à travers des sorties médiatiques et autres, tient des propos bien corsés sur la gestion de l'équipe pour Lord Rouenou. L'homme d'affaires est juste venu remettre ses affaires à flot.
Le chef d'État donc a trouvé bon d'envoyer 48 milliards dans le coton alors que les deux entreprises qui s'occupent donc du coton, l'AIC et Sodeco, ces entreprises-là sont très proches du président Talon. Il se retrouve là. Il est le président du conseil d'administration jusqu'à hier de l'AIC. C'est vrai, il a dit dans le journal Le Monde qu'il a cédé ça à ses enfants. Ses enfants, c'est encore lui. Et donc, on n'a pas apprécié ce fait-là. Donc, je pense qu'il est aujourd'hui dans une posture de juger parti. Je pense que le peuple doit donc s'apprêter à faire la lutte avec nous.
Il sera rejoint dans son élan par un autre jeune connu pour avoir milité aux côtés du gouvernement défunt. Le Bénin serait, selon ses dires, devenu un État totalitaire.
Nous avons un gouvernement qui navigue à vue. Nous avons un gouvernement qui est sans vision. Nous avons un gouvernement qui est sans priorité. Parce que diriger un pays, ça se prépare. Quelle est la boussole aujourd'hui de notre gouvernement? Plus de 3 mois après, le gouvernement n'a pas un programme de développement. Sur quelle base les populations vont évaluer l'action gouvernementale si le gouvernement n'a pas un programme de développement? C'est ça qui explique la navigation à vue dans tous les domaines. Le pont est complètement tombé. Nous demandons donc au gouvernement de prendre ses responsabilités, de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
Mais du côté des proches du chef de l'État, on préfère se garder de répondre à ce genre de provocation, guidée selon eux plus par le désir de se venger d'une déculottée dans les unes que d'une volonté de construire et de participer au développement national.
Je veux vous faire remarquer que le président Talon est un peu produit du secteur privé. Premier élément, fondamental. Donc c'est quelqu'un qui a appris à être rationnel. Il n'a pas appris à gaspiller les ressources. C'est ça d'ailleurs qui a fait qu'il a réussi. Donc je le vois déjà venir transposer le système privé, hein, fondé sur la rationalité, la rigueur dans le système de gouvernance publique.
En attendant, une opposition fiable pour seconder la veille citoyenne qui se fait par la société civile, les Béninois continuent de croire que Patrice Talon conduira le bateau bénin à bon port, même si certains ont perdu l'espoir. De Cotonou, Ginette Le Adondé pour VOA Afrique.
L'Afrique va bénéficier d'un investissement japonais de 30 milliards de dollars sur les 3 prochaines années, dont 10 milliards dans le développement des infrastructures. Shinzo Abe, premier ministre du Japon, l'a annoncé lors de la 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, conférence qui s'est tenue à Nairobi, un sommet sur 2 jours qui a vu la participation d'une trentaine de chefs d'État. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint l'économiste Amadou Cissé du groupe de la Banque mondiale.
Une très grande importance, surtout à cause du grand retard sur les infrastructures, au titre des infrastructures en Afrique, notamment sur le plan de l'énergie, sur le plan de la maîtrise de l'eau et puis sur le plan routier. Ça revêt une très grande importance dans la mesure où le développement des infrastructures est une des préconditions du développement économique. Si cela se traduit concrètement, oui, ça va améliorer les conditions de vie matérielle des populations, ça va améliorer le fonctionnement des États, ça va donner un impetus aux économies africaines.
Les échanges commerciaux entre le Japon et l'Afrique s'élevaient à 24 milliards de dollars l'an dernier, bien moins que les 179 milliards de dollars de la Chine. Ce nouvel engagement du Japon est-il un moyen pour Tokyo de consolider sa position sur le marché africain face à l'offre chinoise notamment?
Cela est un signal positif. Cependant, comme vous l'avez dit, c'est bien loin derrière les montants de la Chine qui sont très très importants. Mais cela étant dit, ça va dans la même direction. Disons, la part de l'Afrique dans le commerce mondial reste très faible. Cet engagement du Japon va dans la bonne direction. Il est difficile de dire autre chose que de noter son côté positif parce que le développement des échanges, c'est quelque chose qui est très très favorable au développement économique. Et le Japon aussi représente un symbole. C'est le pays qui a mis en motion l'ère Meiji, les transformations du Japon pour rattraper son retard par rapport à l'Occident. Il l'a rattrapé et il est un des géants économiques mondiaux aujourd'hui. Donc, développer les échanges avec l'Afrique entraîne aussi ce gain symbolique.
Certains diraient que c'est un peu la ruée vers l'Afrique, la Chine, les États-Unis, l'Europe et maintenant le Japon. Cela ne peut qu'être une bonne chose pour l'Afrique, n'est-ce pas?
Absolument. Et de manière générale, l'Afrique s'inscrit vraiment dans le carnet de visite de tous les pays développés dans la mesure où c'est l'une des dernières frontières de grandes réserves naturelles, minières et autres dans le monde. Et sans conteste, la compétition économique se jouera beaucoup en Afrique ces prochaines années.
Amadou Cissé, économiste pour le groupe de la Banque mondiale. Nous terminons l'émission avec le Burkina Faso, où une initiative originale a vu le jour. inciter les leaders africains à de nouvelles politiques en faveur des jeunes vulnérables et déscolarisés en Afrique et aboutir à leur autonomisation. C'est le pari du groupe de travail sur l'éducation non formelle qui lance un concours de révélation de talents des jeunes. Cette ONG entend mettre à l'abri ces jeunes en leur offrant une chance à travers ce concours baptisé Zanke Faba, appui aux jeunes en langue sonraï. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Zanke Faba se veut un réseau d'information et de communication qui vise à partager les meilleures pratiques pour une intégration sociale et professionnelle des jeunes déscolarisés trouvés dans un état de vulnérabilité. Le but est d'interpeller à travers un concours les États africains sur le sort d'une certaine jeunesse qui, pour une raison ou une autre, n'a pas accès à l'éducation. Un véritable plaidoyer du groupe de travail sur l'éducation non formelle dirigé par le professeur Ibrahim Balalia.
On s'est dit peut-être que si on faisait un système pour promouvoir ces innovations, ils vont servir d'exemple aux autres. Donc on a pensé qu'un concours où on va sélectionner 3 ou 4 meilleurs et on va propulser leurs innovations, va inspirer d'autres enfants.
Le projet Zanke Faba, dans son application, veut toucher tous les responsables et leaders à différents niveaux en Afrique sur le sort de ces jeunes vulnérables, dont nombre d'entre eux possèdent des talents qui pourraient améliorer leurs conditions de vie, tout en les mettant hors de portée des réseaux de délinquants et de recrutement de djihadistes.
On avait fait une étude au Nigeria en 2009. On avait trouvé qu'il y avait 9 millions de cette catégorie. Malheureusement, certaines de nos recommandations n'ont pas été mises en œuvre. On aurait pu peut-être au moins récupérer, même si c'est un seul enfant, de guérilla, de la misère, de l'assassinat. Et on avait dit qu'il faut faire attention à ces jeunes, tellement on est avec Boko Haram qu'on a de la difficulté à éradiquer.
Certains partenaires de la jeunesse ont déjà une oreille très attentive à la démarche. Rinko Kinoshita est la représentante adjointe de l'UNICEF au Burkina Faso.
Cet concours a des moyens pour encourager des gens. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contribuer au développement de la société? Parce qu'ils ont des capacités, ils ont des potentiels. Ils ne réalisent pas ça.
Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou ceux qui l'ont abandonné ont ici l'occasion de révéler un certain savoir-faire. Docteur Sylvestre Ouedraogo, consultant du projet.
Nous voulons faire des compilations de témoignages afin de faire des études de cas, montrer des trajectoires de vie de jeunes. Ils peuvent postuler en allant sur le site web zankefaba.jtnf.org.
Ce concours, qui dure jusqu'au 11 septembre, devra recevoir et apprécier des articles, photos et vidéos sur des thématiques et secteurs d'activité innovantes en Afrique. 3 jeunes pour cette étape initiale vont recevoir des outils numériques pour soutenir leur progression et leur insertion dans la vie professionnelle. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production, Joselle Morissin, au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec le petit prodige de la scène musicale nigériane, Davido, pour son titre The Money, ou bien L'Argent, featuring Olamide. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Now we don't upgrade the matter. Daily and weekly and monthly and quarter. Now we don't talk to butter. Family they smile and we know the quanta. That we just saw Yoruba. Make them no go forget say Badona Baba.